Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec une nouveauté aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bon réveil. Désormais tous les jeudis dans le réveil culturel, on se réveillera en musique, puisqu'on parlera de l'actualité du musical en France, des sorties de disques, des concerts. On parlera des musiques nouvelles ou des chansons éternelles, comme ça va être le cas aujourd'hui, puisqu'on va évoquer le grand Jacques, le grand Brel, qui nous a quittés il y a 40 ans, le 9 octobre 1978, pour être plus précis. Alors, plusieurs livres sont sortis cette année pour marquer cet anniversaire, dont celui de mon invité ce matin, Fred Hidalgo. Le voyage au bout de la vie, c'est aux éditions L'Archipel, et dans ce roman, on revient sur les trois dernières années de Jacques Brel aux Marquises. Le Réveil culturel est une émission préparée par Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec à la technique ce matin Régis Nicolas. Et pour les amateurs de polar, ceux qui avaient l'habitude de nous suivre tous les jeudis, alors là, pas de panique, rassurez-vous, on continuera à suivre l'actu des romans noirs, mais on les traitera désormais le lundi avec le reste de la littérature. Le réveil culturel, c'est parti.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonne Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux Marquises.
Bonjour Fred Hidalgo.
Bonjour.
Jacques Brel, Le voyage au bout de la vie. C'est la version augmentée qui vient de sortir aux éditions L'Archipel et vous revenez dans ce livre sur l'autre vie du chanteur, loin des salles de concert et des studios d'enregistrement. Vous revenez sur le Brel navigateur, le Brel aviateur, le Brel sauveur de petits Polynésiens. Bref, le Brel qu'on ne connaît pas. En réalité.
Non, on le connaît pas vraiment sous cet angle-là. Et je m'y suis intéressé d'abord parce que Jacques Brel, dans mon parcours personnel, est quelqu'un qui a beaucoup compté. En particulier, d'ailleurs, avec une chanson de son dernier album qu'il a écrite là-bas, qui s'appelle Jojo, qui était en hommage à son grand ami, secrétaire, confident. Et dans laquelle il dit, nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Voilà. Et donc, personnellement, j'ai essayé de suivre un peu ce conseil-là. On a créé des journaux musicaux avec ma femme pendant une trentaine d'années, Paroles et Musique et Chorus. Et jamais, évidemment, on a eu l'occasion de rencontrer Jacques Brel, puisque le journal Paroles et Musique a été créé 2 ans après sa mort, en 1980. Et depuis lors, j'avais toujours cette espèce de frustration, alors qu'on a rencontré tous les autres grands chanteurs, hein, Charles Trenet, Léo Ferré, Charles Aznavour, etc. Parce que il avait quelque chose me fascinait. Il est parti à 45 ans, au fait de la gloire, alors qu'il aurait très bien pu continuer des décennies si la santé l'avait accompagné. Pourquoi ? Comment ? Il est devenu totalement anonyme à l'autre bout du monde, dans l'archipel le plus isolé au monde. Et c'était une quête personnelle d'aller voir ce qu'il était devenu, loin des médias et des feux de la rampe. Sans aucune envie même de d'écrire un livre, hein. C'était vraiment une quête personnelle. Et puisque j'ai découvert sur place, grâce aux anciens amis de Jacques Brel, qui depuis, au bout de quelques années, sont devenus les miens, et j'en suis vraiment fier, qui m'ont raconté des choses incroyables, je me suis dit, il faut absolument partager tout cela. Parce que, au-delà du récit des trois dernières années de sa vie, c'est son œuvre qui prend beaucoup plus de force, de crédibilité. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'il avait théorisé sur le papier, en étant chanteur, là-bas, il l'a vécu, il l'a appliqué pour de bon, dans les îles.
Alors, Fred Hidalgo, vous êtes allé donc sur place, vous avez enquêté. C'est même un livre enquête, hein, sur les traces de Jacques Brel. Même si vous exprimez, dès le début votre admiration, là, vous êtes allé en tant que journaliste pour essayer de savoir comment il avait vécu. Et bien sûr, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on avance dans votre récit, dans cette enquête, que vous dressez en creux le portrait du chanteur, mais aussi le portrait d'un aventurier du XXe siècle, parce qu'il était aventurier.
Absolument. On pourrait dire d'ailleurs que ce livre, c'est le récit de Jacques Brel aventurier. C'est d'abord un navigateur au long cours. Jacques Brel était un homme de rêves successifs, hein, qu'il avait eu dans son enfance, et c'est ce qu'il disait tout le temps. Un homme à 16-17 ans a eu tous ses rêves. Parfois, il ne le sait pas encore, mais il les a eus. Et après, il passe sa vie, quand il sait quel rêve il doit réaliser, il passe sa vie à essayer de les accomplir. Lui, il accomplit tous les rêves qu'il a eus pendant son enfance. Celui d'être chanteur, celui d'être comédien, parce que dans l'institut où il allait à l'école, il jouait la comédie. Il écrivait des pièces de théâtre, il commençait à écrire des poèmes, des chansons.
Il a tourné des films.
Et voilà, après, donc, il s'est lancé dans le cinéma. Et il allait jusqu'au bout des choses. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, je suis allé jusqu'au bout, maintenant je m'ennuierai, il faut vraiment que je passe au rêve suivant. Ben, le rêve suivant, c'était de faire le tour du monde à la voile. Donc, il est parti avec un bateau qu'il a trouvé à Anvers. C'était un coup de cœur et en même temps un coup de folie, parce que c'était un bateau beaucoup trop lourd pour lui, 42 tonnes, 18 mètres de long, avec un grand mât de 22 mètres. Et il était parti pour faire le tour du monde pendant 5 ans. Sauf que pendant ce temps-là, malheureusement, le cancer l'a rattrapé. Il a dû rentrer à Bruxelles pour se faire opérer. On l'a amputé d'un poumon. Et à ce moment-là, alors que ses médecins lui disaient il faut passer 2-3 mois de convalescence, lui, 5 semaines après l'opération, il est de retour sur son bateau. Il était en escale à Tenerife quand ça lui est arrivé. Et à ce moment-là, alors qu'on lui a ouvert la poitrine, etc., il traverse l'Atlantique avec sa compagne, Madly, et avec sa fille, France. Donc un homme diminué, et puis des femmes en plus qui n'avaient pas navigué. Mais Brel, lui, était skipper, il avait tous ses brevets, donc il faisait les choses à fond, il avait appris la navigation à haute mer au préalable, donc c'était quelqu'un d'imprudent, mais toujours avec des risques calculés, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il prenait soin d'apprendre tous les rudiments de la voile et puis de l'avion également. L'avion, c'était un autre de ses rêves. Donc il est obligé à un moment donné de faire une escale dans son voyage autour du monde. Il repart, après l'Atlantique, c'est la traversée du Pacifique, et il a déjà dit à tout le monde que sa première escale, ce seront les Marquises.
Parce que Gauguin, parce que Stevenson?
Non, ah oui, on pourrait parler de Stevenson, de Melville, qui a écrit Taipi sur son passage aux Marquises. Non, tout simplement, les marins, lorsqu'ils traversent le Pacifique, ont l'habitude de faire escale aux Galapagos. Et sauf que les Galapagos, à l'époque, c'était un régime militaire, c'est une dictature équatoriale, et Brel et les uniformes, ça a toujours fait deux. Il se dit, pas question que je mette le pied dans un pays sous dictature militaire. Donc, je file jusqu'aux îles droit devant, c'est ce qu'il écrira ensuite. Et les îles droit devant, ben, c'est tout simplement les Marquises, à plus de 6000 kilomètres du continent. C'est l'archipel le plus isolé au monde. Donc il n'avait pas le choix. Le problème, c'est que en évitant l'escale des Galapagos, il va tomber dans ce que les marins appellent le poteau noir, c'est-à-dire que pendant 17 à 18 jours, pas de vent, Il est passé à côté de la route des Alizés. Et donc, au lieu de mettre un mois pour arriver jusqu'à Ivaoa, il va en mettre deux, complètement épuisé. Là, il est tout seul à la barre avec Madly Bami, sa compagne, parce que France, sa fille, les a quittés aux Antilles. Et donc, ils sont épuisés lorsqu'ils arrivent aux Marquises, un peu dégoûtés du bateau, déjà. Mais ça n'est pas ça qui fait qu'il va s'arrêter aux Marquises, c'est que très vite... Il va déjà procéder aux formalités douanières, il va voir le gendarme de l'île, parce qu'il est belge, ne l'oublions pas. Et puis, juste après, il traverse la rue, il va à la poste, parce que il avait prévu de faire escale, donc il s'était fait envoyer du courrier en poste restante. Et là, il demande du courrier, il dit « voilà, je suis Jacques Brel, je viens chercher mon courrier ». Et le postier, le seul et unique postier de l'île, lui dit « oui, effectivement, j'ai beaucoup de noms pour Monsieur Brel, avez-vous une pièce d'identité ?»
Beaucoup de lettres, oui.
Voilà, et alors Brel, il le regarde, j'imagine qu'il va se dire, oh, bah, l'administration, bon, mais je suis Jacques Brel. Voilà, quoi, il le dit spontanément, hein, pas du tout de façon prétentieuse. Et le postier lui dit, mais je vous crois, hein, mais vous savez, il y a un règlement, et comme on ne vous connaît pas, je ne vous connais pas, j'ai besoin d'une pièce d'identité, hein, ou un passeport. Et là, Brel se rend compte qu'il est totalement inconnu aux Marquises. Il va s'en rendre compte dans les jours suivants. Donc, il fuyait la notoriété, il fuyait la gloire, il rêvait de retrouver l'anonymat, ça va être le cas. Et dans les jours qui vont suivre, il va tomber amoureux fou des Marquises, qui n'ont rien à voir avec la Polynésie paradisiaque telle qu'on l'imagine, les atolls et tout. Et il va avoir le même coup de foudre que Gauguin avait connu 75 ans plus tôt.
Pas pour la nature seulement, mais aussi pour le peuple, pour les gens surtout. Et ça, vous l'expliquez bien dans votre livre enquête, Fred Hidalgo.
Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, et donc il décide de s'installer, tombe amoureux de ces îles, il est dégoûté du bateau, donc il tourne la page, et en allant vite, il va se racheter un avion. Je dis en allant vite parce qu'il pensait ne plus piloter à cause du poumon en moins. Et puis il va rencontrer un pilote sur place qui va lui dire, pour être pilote professionnel peut-être, mais pilote privé, il n'y a aucune raison à partir du moment où tu revalides ta licence de pilote, puis pilote privé. Donc, alors pour lui, c'est une espèce de renaissance parce qu'il adorait l'avion. Il en faisait depuis 1964. Il avait déjà eu 3 ou 4 monomoteurs. Et là, il va s'acheter un bimoteur qui va lui permettre, entre les Marquises et Tahiti, Papeete, où ça fait quand même 1500 à 1600 kilomètres, de servir en quelque sorte de bon samaritain en marquisien. Parce qu'à l'époque...
Il va sauver des vies, il vous racontait ça, Fred Hidalgo. Hein,
oui, oui, exactement. Parce qu'alors, il est inconnu, mais sur place, pour comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin. Et il se dit, je ne peux pas laisser ces gens-là comme ça. Donc, avec son avion, non seulement il va faire des tâches, entre guillemets, subalternes, comme transporter le courrier, qu'il ne recevait qu'une fois par mois au mieux. Il va aller dans les îles environnantes où il peut se poser dans des conditions absolument folles. Là où Air Polynésie ne voulait pas se poser, bah lui, il y allait. Et puis, évidemment, les malades, les femmes enceintes, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Il va emmener tous ces gens-là jusqu'à Papeete, donc 3000 kilomètres aller-retour. Et il va sauver une vie, par exemple, d'un gamin. C'était la mère supérieure du collège Sainte-Anne qui est là-bas, qui nous a raconté ça. C'était un enfant qui s'était grièvement blessé. Il fallait absolument l'évacuer le plus vite possible vers l'hôpital, sauf que l'hôpital était à 1500 kilomètres et qu'on était à la fin de la journée. Et aux Marquises, à Ivaoa, en tout cas, il y avait une piste, simplement, ce n'est pas un aéroport, c'est une piste qui n'était pas balisée, qui n'était pas éclairée. Et Brel s'est dit, je ne peux pas laisser mourir un enfant, peut-être mourir un enfant faute de soins. Donc il a demandé à ses amis sur place, il y avait des 4x4, de monter jusqu'à la piste qui est à 400 mètres d'altitude et de l'éclairer pour lui permettre de décoller en pleine nuit avec le gamin. Donc il est allé jusqu'à Papeete, le jeune a été sauvé, et vraisemblablement, d'après la mère, il a sauvé une vie ce jour-là. Et pour la petite histoire, pour revenir sur le côté aventurier, il a été le premier pilote de l'histoire à faire un vol de nuit, lui qui adorait Saint-Ex, un vol de nuit entre les Marquises et Tahiti.
Voilà, c'est une des fameuses histoires de la vie ordinaire d'un Jacques Brel au bout du monde, hein, dans cette île en Polynésie. Vous racontez tout ça dans Le Voyage au bout de la vie, Fred Hidalgo, livre enquête, augmenté par des photos et par d'autres informations qui sort aux éditions L'Archipel. Et pour vous, c'est simple, vous voyez en Jacques Brel le Don Quichotte du XXe siècle.
Ah oui, oui, absolument. Je crois qu'il l'a vraiment incarné, hein, qu'il l'ait joué. Ça, c'était en germe depuis longtemps chez lui. Et puis, bon, il était magnifique dans L'Homme de la Mancha. C'était vraiment Don Quichotte dans toute sa splendeur. Mais ça ne lui a pas suffi. Il l'est devenu réellement dans les îles. C'est vrai que là-bas, c'est devenu un mythe parce que, pas parce qu'il était chanteur qu'il était connu, pas du tout, parce que c'était Jacques Brel qui, il l'appelait Jacques Brel d'ailleurs comme si c'était un seul nom, quoi. Jacques J.A.C. Brel, Jacques Brel, Jacques Brel, Jacques Brel. Et parce qu'il a sauvé des vies, il leur a rendu la vie la plus facile culturellement, il a apporté le cinéma, il a appelé son ami Claude Lelouch, il a acheté deux projecteurs, il faisait venir des films lui-même et avec un groupe électrogène et avec sa compagne, il projetait lui-même les films, il y avait deux séances de cinéma par semaine, enfin plein de choses, il a fait beaucoup de choses pour les Marquisiens.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues, dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas.
Elle s'appelait comment cette île de l'archipel des Marquises où Jacques Brel a passé ses dernières années, Fred Hidalgo?
Elle s'appelait Ivaoa. C'était l'une des six îles habitées de l'archipel, qui en compte une douzaine à peu près. L'archipel des Marquises, dans son nom originel, c'est Terre des Hommes. Les Marquisiens l'ont toujours appelé comme ça. Et Brel, qui adorait Saint-Exupéry, je suis sûr que quand il a appris ça, ça n'a pu que le séduire encore plus. Et donc, il s'est installé dans la ville principale, qui est en fait un village de Divaoua, qui s'appelle Atouona. Et dans ce village, comme par hasard, Gauguin avait vécu là 75 ans plus tôt. Et la maison de Gauguin qui a été reconstituée, qu'il appelait la maison du jouir, et celle de Brel, qui malheureusement a été détruite depuis, était à quelques 100 mètres à vol d'oiseau. Et entre les deux, il y a toujours un magasin qu'on appelle le magasin Gauguin, parce qu'il existait du temps du peintre, et c'est là qu'il venait se ravitailler en vivres, et certainement en alcool, en absinthe ou autre. Et Brel descendait tous les matins boire une bière avec le patron, qui était un Chinois à l'époque. Et donc, quand on est sur place, ça n'a quasiment pas changé. Il y a quelques maisons de plus, mais il y a pas de route quasiment. C'est tel quel. Quand Brel arrive là-bas, c'est en 75. Il n'y a pas encore une rue dans le village. Et puis tout le reste, ce sont des pistes. Et aujourd'hui, les pistes ont été un petit peu cimentées par-ci par-là, mais guère plus. Et donc, quand on arrive sur place, on a vraiment l'impression de faire un tour dans le passé. Et on a l'impression que Brel va apparaître au coin coin de la rue.
Dans votre livre, dans votre enquête, Jacques Brel, Le voyage au bout de la vie, aux éditions de l'Archipel, Fred Hidalgo, vous ne faites pas que raconter cette histoire de Jacques Brel retiré du monde, retiré jusqu'à l'autre bout du monde, et comment du plat pays jusqu'à la Polynésie, il a réussi à incarner le rôle qu'il a toujours voulu jouer, hein, parce que là, il retrouve tous ses rêves, il les concrétise. Vous parlez aussi de comment cette terre, au bout du monde, a influencé ses dernières compositions. Parce que il est vrai que lorsqu'on écoute son ultime album, l'album bleu qu'on appelle Les Marquises, parce que c'est le titre de la dernière chanson oui. de l'album, on se dit c'est du Jacques Brel, il reste Jacques Brel. Mais non, vous avez enquêté, vous avez vu comment ce pays-là a influencé ce disque-là.
Oui, oui, absolument. Toutes ces chansons-là, il les a écrites sur place. Alors, il y en avait une ou deux, comme celle que vous avez passée, La ville s'endormait, qu'il avait commencé à travailler sur son bateau, l'Ascoy, mais il les a toutes terminées sur place. Et effectivement, c'est un disque qui est totalement imprégné des Marquises. Et il y a une chanson, d'ailleurs, qui aurait dû être sur cet album, qui s'appelle La cathédrale, qui a fait partie de ce qu'on a appelé les inédites. Mmh. Et c'est pareil, il racontait son parcours, du jour où il part du port d'Anvers sur son voilier jusqu'à son arrivée aux Marquises.
Mais comme une allégorie de la vie, parce qu'il se sent condamné là. Hein. Il parle aussi de la mort, notamment à travers cette belle chanson qui est Vieillir.
Oui, Vieillir, Orly, voir un ami pleurer. Enfin, il n'y a que des chefs-d'œuvre dans, à part deux ou trois, qui sont un peu plus discutables. Les il ne parlait pas des Flamands, mais des Flamingans. Mais là, il avait un vieux compte à régler. Et c'est drôle d'ailleurs qu'il l'ait réglé là-bas, aux Marquises. Bon, il est resté quand même très très belge. Hein. Mais c'est vrai que ces chansons, là, il les a écrites chez lui, donc une petite case de rien du tout, parce que Brel et le luxe, ça, vraiment, ça faisait deux. Il avait un petit salon, un petit orgue électrique qu'il avait acheté à Tahiti, et sa guitare qu'il avait emportée. Et il s'enregistrait lui-même sur un mini-cassette, tout simplement. Et on a eu la chance, grâce aux amis de Jacques Brel, qui sont toujours là-bas, ou à Tahiti, de récupérer une ou deux cassettes, parce qu'il s'enregistrait donc sur cassette pour pouvoir travailler ensuite. C'était la première fois de sa vie qu'il travaillait dans ces conditions-là. D'habitude, il écrivait pendant qu'il tournait. Il essayait ses chansons au fur et à mesure sur scène avec ses musiciens, évidemment, qui travaillaient avec lui ou qui lui donnaient leur avis. Là, il était tout seul face à lui. Et quand on écoute ces cassettes, on a l'impression qu'elles sont vraiment imprégnées du lieu où il les a écrites. Et en même temps, on se rend compte qu'il avait une voix extraordinaire. Enfin, la voix du dernier album. Je le dis parce que quand il est sorti, certains ont dit « mais avec un poumon en moins, c'est pas possible, ça a été trafiqué en studio et tout ». Je vous jure que sur les cassettes, enregistrées sur un mini-cassette où il s'accompagne à l'orgue électrique ou à la guitare, il avait exactement la même voix. Formidable.
Et aujourd'hui, comment il est vu, Jacques Brel, là-bas, en Polynésie, là-bas, au bout du monde?
Ah, mais il reste
le bienfaiteur qui est passé entre 75 et 78.
Oui, quelqu'un qui a vraiment apporté, déjà, au niveau santé, qui a joué un rôle très important, au niveau culturel, qui s'est battu comme il l'a pu, au niveau même des infrastructures routières, parce que il arrêtait pas de remuer ciel et terre, il allait voir le gouverneur à Tahiti en leur disant, mais pourquoi vous abandonnez ces gens, parce que pour vous, c'est les paysans, quoi, en quelque sorte, hein, ils sont à l'autre bout de la Polynésie. Donc il a pris fait et cause pour eux, et aujourd'hui, les Marquisiens, c'est leur grand homme, hein, ça, il y a aucun doute, et pas comme chanteur, parce que évidemment, aujourd'hui, ils ont vu leur film, ses films, ils ont écouté ses chansons, mais ça leur correspondait pas trop dans l'esprit, mais c'est vraiment l'homme Jacques Brel qui a laissé une trace, comme je sais pas, Alain Gerbeau, quand il a traversé, c'est le premier navigateur français qui avait d'ailleurs fait escale aux Marquises, ou Mermoz, ou Saint-Exupéry, c'est vraiment de ce calibre-là, dans cet esprit-là, que l'on considère encore Jacques Brel sur place.
Ce qui est plutôt optimiste dans votre livre, Fred Hidalgo, c'est que on sent que Jacques Brel s'est éteint après avoir réalisé à peu près tous ses rêves.
Oui, absolument. Et un jour, j'ai rencontré Jean Corti, qui était un de ces grands musiciens. C'est lui, par exemple, qui a composé la musique des Vieux et d'autres. Je lui ai dit, mais quand même, 49 ans, c'est terrible, quoi.
Ah oui,
mourir aussi jeune. Et il dit, mais non. Il dit, Brel, il a vécu deux vies en une. Il dit, c'est comme s'il était mort centenaire. Et c'est vrai qu'il n'a pas arrêté. Il a eu une... Brel, d'ailleurs, disait lui-même que l'important dans une vie, ça n'est pas la durée, c'est l'intensité. Alors si quelqu'un a connu une vie intense, c'est vraiment Jacques Brel.
Vous continuez à l'écouter, Fred Hidalgo?
Ah oui, ça, impossible de ne pas l'écouter. Toutes les chansons, d'ailleurs, de toutes les périodes. Mais c'est vrai que la dernière, pour moi, c'est le disque qui est à mettre au panthéon du patrimoine de la chanson francophone, carrément. Hein.
Est-ce que votre écoute de ce disque a changé après votre voyage aux Marquises sur les traces de Jacques Brel?
Plus et mieux que ça. C'est-à-dire qu'arrivé sur place, il y a quelqu'un qui s'appelle Serge Lecordier, qui a rencontré Jacques Brel sur place, qui a fait en sorte de sauver son avion. Il était en train de pourrir sur le tarmac de l'aéroport de Papeete. Il l'a sauvé, il l'a fait revenir à Ivaoa. Il a été restauré et il a bâti un hangar pour que les visiteurs puissent le voir, avec des affiches racontant sa vie. Et quand on pousse la porte du hangar, j'étais tout seul avec ma femme, il n'y avait absolument personne d'autre, il n'y avait pas de touristes. Il y a le disque Les Marquises qui démarre automatiquement et qui tourne en boucle, en fait. Et là, alors ça m'a fait un effet... Encore aujourd'hui, j'arrive pas à l'expliquer. Mais d'écouter les chansons que Jacques Brel a écrites sur place, à l'endroit où il les a écrites, ça a été quelque chose d'absolument un choc, quoi, vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des chansons que je peux pas réécouter de la même manière qu'auparavant.
Jacques Brel, Le Voyage au bout de la vie, c'est édité chez l'Archipel. Merci beaucoup, Fred Hidalgo, d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci beaucoup à vous.